Bonjour à tous. Pour cette dernière émission de la saison, nous avons voulu nous pencher sur les transformations qui sont en cours dans le domaine de la presse, du secret des affaires au projet de loi contre les fausses nouvelles. Quelles conséquences pour l'investigation? A-t-on raison ou tort de crier au loup? On va voir ce qu'en pensent nos quatre invités qui se trouvent avec moi dans ce studio. Édouard Perrin, journaliste à l'agence Première Ligne, bonjour.
Bonjour.
Aurore Gorius, journaliste au site Les Jours, bonjour également.
Bonjour.
Raphaël Ruffier, vous êtes vous rédacteur en chef du mensuel Lyon Capital.
Bonjour. Bonjour.
Et puis Yvan Duroy, vous êtes vous rédacteur en chef du site Bastamag, bonjour à vous également.
Bonjour.
Merci donc à tous d'avoir accepté notre invitation. Et pour lancer le débat, eh bien on va tout de suite se mettre en situation.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
L'objet même de la loi, c'est bien sûr d'instaurer un secret des affaires, mais ça n'est pas que d'être exclusivement favorable aux entreprises. Les dérogations que nous instaurons, elles sont bien pour les lanceurs d'alerte. Et donc je crois que ce que nous avons cherché à concevoir, c'est bien un système équilibré.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, expliquant à l'Assemblée nationale que la loi sur le secret des affaires, qui a été définitivement adoptée le 14 juin dernier, est une loi équilibrée qui protège donc aussi bien les entreprises que le droit à l'information. Cette loi a pourtant provoqué une vive inquiétude au sein de notre profession. Beaucoup y ont vu une restriction du champ de l'investigation et une manière aussi de bâillonner les lanceurs d'alerte. Alors Édouard Perrin, vous qui êtes à l'origine de l'affaire qu'on a appelée les LuxLeaks, vous qui avez relayé les informations de deux lanceurs d'alerte, en l'occurrence Antoine Deltour et Raphaël Allais, est-ce que, au final, selon vous, cette loi est équilibrée?
C'est intéressant parce que concomitamment au vote de cette loi, un des lanceurs d'alerte, donc Antoine Deltour, procédait à la dissolution de son comité de soutien dans les Vosges. L'information à retenir, c'est que son comité de soutien a levé 90 000 euros pour sa défense. Et je pense qu'il est important de donner ce type de chiffres parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de poursuite au titre du secret des affaires. C'est que ça coûte cher. Antoine Deltour, Raphaël Allais et moi-même, on était poursuivis entre autres pour violation du secret des affaires. Et c'est ce qui va arriver avec cette loi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poursuivre et ça va coûter très cher à ceux qui sont poursuivis.
Alors est-ce qu'on parle de la même loi? C'est-à-dire est-ce que les lanceurs d'alerte sont protégés de la même manière en France qu'au Luxembourg où ils ne le sont pas?
Il y avait une protection au titre des lanceurs d'alerte, mais seulement pour des affaires de corruption, en fait des faits qui sont clairement illégaux.
Au Luxembourg?
Au Luxembourg, ouais.
Bon, cela dit, il faut préciser quand même que dans la loi qui a été adoptée, ce qui a été modifié, c'est cette phrase qui dit « Les lanceurs d'alerte pourront continuer à dénoncer des comportements ou des menaces contraires à l'intérêt public ». Donc là, on est dans une définition qui est quand même plus large. Raphaël Ruffier.
Tout le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils en apportent la démonstration devant des tribunaux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils apportent la démonstration au point de départ qui sont de bonne foi et qui défendent l'intérêt général.
D'accord, donc si je vous comprends bien, la loi certes officiellement protège les lanceurs d'alerte en disant après tout, ils ont le droit s'ils le font dans l'intérêt public et général, mais comme il va falloir qu'ils se défendent, ça va prendre du temps, ça va leur coûter de l'argent et ça va être un combat qui va les exténuer.
C'est ça, c'est du pipeau la protection des lanceurs d'alerte. Parce que lui, ce qu'il sait, c'est qu'au moment où il va faire sa révélation, il va perdre son boulot. Il va se retrouver avec des procédures. Donc lui, il va falloir qu'il dépense de toute façon 10 000, 20 000, 30 000, enfin 50 000 euros de frais de procédure. Donc lui, il sait qu'il va se retrouver dans la nasse, que même s'il a raison et que le droit est pour lui à la fin, il a devant lui 5 ans, 10 ans de procédures très compliquées et qui vont le ruiner, et absolument aucune assurance qu'à la fin, ça vaudra la peine de le faire et qu'il sera indemnisé pour ça.
Ouais. Aurore Gorius, du site Les Jours, vous partagez ce qui vient d'être dit?
Oui, totalement. Alors après, le secret des affaires, le problème, c'est que c'est une pression qui est aussi une pression largement psychologique et que ça peut jouer bien en amont des procédures elles-mêmes, c'est-à-dire au moment où on enquête,
quelles que soient les
travaille.
Fameuses dérogations auxquelles faisait référence Nicole Belloubet.
Exactement, quelles que soient les dérogations, parce qu'on voit bien que les journalistes qui enquêtent sont de plus en plus cadrés, on essaye d'encadrer ce qu'ils font, on essaye de... Et du coup, au moment d'enquêter, ça peut aussi être un frein. On peut aussi se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce que je vais, et ça peut être une façon d'augmenter l'autocensure qui existe déjà chez les journalistes.
Alors là, pour le coup, elle ne s'applique pas aux journalistes.
Oui, mais...
C'est dit dans le texte, là, aussi.
C'est...
Faut être précis. Elle
s'applique à nos sources. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est que les gens nous parlent plus, après.
Oui, mais c'est important de préciser. En fait, la crainte, c'est que la source se tarisse et que les journalistes ne puissent plus travailler. Mais les journalistes, eux, sont protégés.
Oui, mais typiquement, là, moi, je suis en train de travailler sur un sujet dans l'industrie pharmaceutique, le Levothyrox. Il y a des sources qui ont peur de parler. Typiquement, c'est compliqué, ça décourage. Pour enquêter, c'est quand même une pression supplémentaire.
Ouais. En même temps, Antoine Deltour, on en parlait tout à l'heure, la loi sur le secret des affaires existe au Luxembourg et ça ne l'a pas empêché de révéler ce qu'il a révélé.
À quel prix ?
Oui, voilà.
Ouais. Non, mais je sais, on l'a entendu, mais ce que je veux dire, c'est que même avec un secret, on peut révéler. Yvan Duroy, pour le site Bastamag.
Oui, le problème de cette loi, c'est qu'elle crée un droit au secret par défaut pour les entreprises. À partir de là, un salarié qui sortira une information, un lanceur d'alerte, un syndicaliste ou un chercheur, aurait à prouver, ensuite, s'ils sont attaqués, qu'ils s'inscrivent dans la fameuse exception de liberté d'information, liberté d'expression et de communication. Donc, ça inverse totalement la charge. C'est que les entreprises, les grandes entreprises bénéficient d'un droit par défaut. Et après, à ceux qui vont enfreindre éventuellement ce droit, de prouver qu'ils le faisaient pour de bonne foi et pour des raisons d'intérêt général. Et on est dans un contexte quand même où les entreprises, les grandes entreprises en tout cas, sont de plus en plus pointées du doigt sur, on l'a vu sur les affaires d'optimisation fiscale, hein, avec les différentes Panama Papers, Luxleaks, etc. Elles sont pointées du doigt dans les affaires de pollution environnementale, sur les questions climatiques. Elles sont pointées du doigt sur les conditions de travail dans un certain nombre de filiales ou chez des sous-traitants en Asie ou en Afrique. Et c'est une manière pour elles vraiment de se défendre et puis de tenter petit à petit d'étouffer les critiques et les enquêtes qui surgissent sur tous ces sujets-là.
Alors là, on réagit en journaliste qui voulons continuer à faire notre travail. C'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'à contrario, on ne peut pas entendre aussi que des entreprises aient envie de se protéger, notamment dans un monde de plus en plus concurrentiel où les moyens de piratage numérique et où l'intelligence économique prend une place énorme.
Il y a déjà des lois.
Il y a déjà des lois. Et deuxièmement, on a eu de cesse, quand on a rencontré le rapporteur Gauvin, quand on a rencontré les sénateurs, quand on a rencontré les conseillers justice de l'Élysée et de Matignon, de leur faire une proposition qui était très simple, qui était de restreindre le champ d'application de cette loi aux acteurs concurrentiels entre eux. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous faites une concurrence déloyale à une autre entreprise.
Vous avez volé des informations d'une autre entreprise, vous êtes condamnable.
En lui piquant des informations à des fins lucratives, évidemment, vous êtes dans le cas d'une violation du secret d'affaires. Et nous, en tant que collectif, on n'a absolument rien contre ça.
Alors non, on a fonctionné à l'envers, pour refaire l'histoire. C'est-à-dire qu'on a défini d'abord ce qu'était le secret des affaires et ensuite on a pris des mesures dérogatoires pour exclure, les journalistes, limiter maintenant la casse, j'allais dire, pour les lanceurs d'alerte, etc. Mais on a fonctionné à l'envers, si je vous entends bien.
C'est ça. Il y avait un accord, à la genèse de tout ça, il y a un accord commercial international, sans rentrer dans les détails, qui remonte à... près de deux décennies maintenant, et dans cet accord international qui a donné lieu à toutes les législations nationales de protection des secrets d'affaires, il y avait clairement l'aspect de concurrence déloyale entre acteurs économiques équivalents.
Raphaël Ruffier.
Dans les débats parlementaires, il y a eu un sénateur, Jean-Yves Lecomte, qui a proposé d'exclure du secret des affaires la question de l'optimisation fiscale. En disant que l'optimisation fiscale, bien sûr, c'est légal, mais bon, c'est normal que les citoyens puissent regarder comment ça marche. Mais non, c'est pas passé. C'est-à-dire que l'optimisation fiscale sera protégée par le secret des affaires. Quand on parle de savoir qu'est-ce qui est protégé par l'intérêt général ou pas, on est vraiment dans le cœur du projet, là.
Il y a quand même un progrès, parce que là, on dit beaucoup de mal de cette loi. Il y a quand même un progrès qui sont les sanctions contre les procédures bâillons. Procédures injustifiées qui n'ont pour but que d'intimider les journalistes. Alors, vous me direz, il faudra attendre des mois ou des années pour que tout ça soit établi. OK. Mais on a quand même la mise en place d'amendes qui peuvent aller de 60 000 euros à plusieurs millions d'euros.
Ouais, mais c'est pas très cher payé pour certains secteurs et certaines entreprises. Pour des entreprises du CAC 40, c'est des risques qui se prennent assez facilement.
Plusieurs millions d'euros ?
Plusieurs millions peut-être pas, mais avant qu'on arrive à plusieurs millions, 60 000 euros, par exemple, ça représente pas grand-chose. Donc, pour des entreprises extrêmement puissantes, notamment, je reviens à l'industrie pharmaceutique ou d'autres, c'est des risques qui peuvent tout à fait être pris. L'amende n'est pas très cher payée.
Là où on est dubitatif, c'est qu'en matière de diffamation, les journalistes, normalement, quand ils gagnent un procès, ils peuvent être indemnisés de leurs droits.
Alors, je précise que vous êtes Raphaël Ruffier, de Lyon Capital.
Et Nous, on a eu un certain nombre de procès, on en a gagné quand même beaucoup. On n'a jamais été remboursé de nos frais de justice, mais jamais. Même quand on gagne à plat de couture avec la preuve, etc., au mieux, on gagne 4000 euros. On échangeait avant sur nos différents procès. Personne d'entre nous autour de la table n'a gagné plus de 4000 euros de frais de justice.
On en parlera, si vous voulez bien, tout à l'heure, mais il n'y a pas un moment où vous dites le fait d'instaurer quand même une mesure qui soit un peu dissuasive, alors Aurore, vous ne pensez pas assez, mais un peu dissuasive face à ceux qui voudraient justement s'amuser à ne lancer des procédures que pour intimider les journalistes, ça, ce n'est pas un progrès.
C'est un progrès s'il devient réel, mais encore une fois, le travail des journalistes, ce n'est pas d'aller devant les tribunaux défendre leur sujet.
On se donne rendez-vous dans un an, dans deux ans, pour faire un premier bilan de cette loi et voir si tout ce qui a été dit là se vérifie ou pas. On va quitter en attendant le domaine du secret des affaires pour nous intéresser maintenant à celui, c'est un peu différent, des fausses nouvelles.
Secret d'info sur France Inter.
C'est vous, journaliste, qui êtes les premiers menacés par cette propagande. Elle adopte votre ton, parfois vos formats, elle emploie votre vocabulaire, et parfois même, elle recrute parmi vous. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles.
Alors ça, c'était Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse, encore très échaudé d'ailleurs par la campagne de la présidentielle au cours de laquelle un média notamment proche de la Russie avait relayé des fausses nouvelles à son sujet. Il annonce qu'il va donc légiférer. Seulement, l'idée de faire définir par un juge ce qu'est une vraie ou une fausse nouvelle, ça pose un peu problème. D'où un débat vif en ce moment sur les conséquences d'une telle mesure, qui là, contrairement au secret des affaires, n'a pas encore donc été adoptée. Alors, la liberté de la presse, Yvan Duroy, pour Bastamag, est-elle menacée par ce projet ?
Les supports d'information, que ce soit du livre à aujourd'hui le web, ont toujours été des terrains de lutte entre les différents rapports de force politiques, idéologiques, etc. Avant, il y avait les livres, il y a eu la presse papier, la télévision, la radio, et maintenant il y a Internet. Alors ce qui change avec Internet, c'est la question de l'immédiateté, c'est-à-dire que vous balancez une information ou une fausse nouvelle, ça peut en quelques minutes,
et la dissémination,
ou quelques dizaines de minutes, être repris partout et se disséminer à vitesse grand V. Sauf que le problème, c'est qu'on voit mal qui va décider que... Parce que si je reprends les termes de la formulation, c'est une fausse nouvelle, ce serait toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Donc qui va juger derrière ? Donc un juge, a priori, va estimer si telle information qui est publiée est vraisemblable, est une...
Et l'idée, c'est de juger en référé sous 48 heures. C'est-à-dire un juge qui dirait très 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 vite si l'info est vraie ou fausse.
Si on dit demain, Cahuzac, ministre des Finances, a des comptes en Suisse, est-ce que le juge va être...
Sur la base d'une bande magnétique, d'une voix qu'on n'arrive pas à identifier.
Voilà, va être en mesure de vérifier au bout de 48 heures si cette information est vérifiable ou non. Quand on sait ce type de process, il y a des procédures en diffamation derrière, le temps que ça prend ensuite et la longueur des audiences, ça me paraît très compliqué. Et puis surtout sur le web, où avec tous les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., où il y aura des centaines et des centaines de fausses nouvelles potentielles à vérifier, à juger en permanence. Donc c'est même pas applicable.
En même temps, avec cette définition, on peut valider n'importe quelle fausse nouvelle, puisque un élément de nature à rendre vraisemblable, ça veut pas dire que c'est vrai. Oui, donc en l'occurrence sur Cahuzac, en écoutant la bande, on pourrait dire, regardez, c'est un élément de nature à peut-être la rendre vraisemblable.
Il y a un piège aussi, parce que si demain une fausse nouvelle circule, mais que les juges sont incapables en 48 heures de dire, non, c'est une fausse nouvelle puisqu'elle n'est pas vérifiable et c'est invraisemblable, du coup ça valide la fausse nouvelle. Et c'est un risque aussi à prendre en compte.
Édouard Perrin.
Ouais, c'est clairement l'enjeu, le juge en référé. On a le risque que le juge, la plupart du temps, va juger à contrario, c'est-à-dire dire je n'ai pas les moyens de, et valider toute une campagne. Généralement, ce sont des campagnes de désinformation qui sont très bien orchestrées, et valider ce type de campagne, puisque c'est de ça qu'on parle, et c'est ce à quoi est censé s'adresser cette loi. Moi, j'ai été auditionné assez en amont par le ministère de la Culture là-dessus. Le seul aspect qui, moi, m'avait paru positif, qui s'adressait sur les campagnes et les sponsorings de messages, notamment sur les réseaux sociaux, ça c'était bien, c'est-à-dire si vous vous payez un contenu, vous devez dire pour qui vous le payez et dans quel but.
D'ailleurs, il y a une ambiguïté, pardon de vous couper, mais il y a une ambiguïté dans la loi parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça s'appliquera à la presse ou uniquement aux réseaux sociaux. On est un peu dans cette incertitude.
Alors, en plus, bon, c'était vraiment assez en amont dans le processus, donc je pense que les définitions et le texte étaient loin d'être achevés. Mais c'était a priori, enfin pour moi, la seule mesure qui allait dans le bon sens. Et par contre, elle était limitée dans le temps. C'est-à-dire, je crois que c'était limité à 50 jours avant une échéance électorale, alors qu'en fait, ces campagnes-là, elles se passent bien avant les élections. Et donc, on avait noté que si on voulait lutter effectivement contre des campagnes de désinformation massive, c'était des mois avant et qu'il faudrait rendre ces mesures-là, pour le coup, effectives tout le temps. Et on nous avait dit non, ça ne pourra pas passer parce que ça va à l'encontre de la liberté d'entreprendre et le Conseil constitutionnel ne va pas l'accepter. Et donc, c'est là où ça rejoint aussi un petit peu la petite musique du secret des affaires et de comment s'élaborent les lois et notre droit. C'est qu'on voit que quand on veut combattre des campagnes de propagande, hein, disons les choses, on ne se donne pas non plus forcément les moyens pour le faire.
Alors, soyons là aussi précis, même si c'est difficile de l'être avec un projet. Ce qui semble être visé aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez restrictif, ça, vous l'avez évoqué, hein, ça concernerait les périodes électorales et probablement d'ailleurs des puissances étrangères ou des médias représentant des puissances étrangères qui utiliseraient des robots pour disséminer de manière extrêmement rapide et exponentielle des fausses nouvelles. Donc ça
Claire
réduit
Macron
quand même...
veut pouvoir, s'il y a des nouveaux, des Macron leaks à la prochaine campagne électorale, demander au CSA de couper Russia Today. C'est ça la demande claire. Alors, de cette loi,
a,
en fait.
Il y a autre chose, effectivement, mais c'est le deuxième aspect, c'est qu'on donnerait au CSA la possibilité d'interrompre, par exemple, le flux d'une télévision dont on penserait qu'elle fait de la propagande malveillante de la part d'une puissance étrangère qui serait de nature à altérer la sincérité du scrutin en France.
Donc couper Russia Today à télé, mais couper aussi Russia Today sur Internet. Mais
c'est effectivement ça.
C'est voilà, la loi est faite pour ça. Mais alors, en plus, il n'y a pas eu de problème sur cette histoire-là. Dans la campagne électorale. Parce que pourquoi ? Parce que les journalistes ont fait leur boulot. Quand les Macron leaks sont sortis, ils ont sorti tout un tas d'affaires à partir de ça. Il y a eu une manipulation qui a été démontée assez vite par l'ensemble des journaux. Les journaux, pendant les campagnes électorales, sont quand même aussi, enfin les journalistes sont quand même très aux aguets. Donc ils ont fait tout ce boulot de vérification. S'il y a un problème avec les fausses nouvelles, à mon avis, il est plus avant tout dans l'éducation aux médias. J'ai dû faire une centaine d'interventions dans des collèges et lycées ces dernières années. Je peux vous dire qu'en matière de fausses nouvelles, il y a un problème dans les collèges et les lycées. Et que si on consacrait peut-être nos moyens à faire de la formation aux médias, à faire de la formation à l'esprit critique, tout simplement, ben on aurait des citoyens capables de faire la différence entre des vraies et des fausses nouvelles. Moi, ça m'embête sur l'histoire de Russia Today. C'est que on dit ben, c'est la Russie qui nous manipule et qui tient un discours de propagande. C'est insupportable, on ne veut pas ça en France. Mais... comme si la France n'avait pas un discours de propagande aussi à l'international. Évidemment qu'on sait comment fonctionne Russia Today et qu'on ne peut pas leur faire... on sait qu'ils relatent le point de vue du Kremlin, mais en même temps, ils donnent une position un peu différente sur différents événements dans le monde, qui peut être intéressant comme journaliste d'aller regarder.
Alors juste pour repositionner le débat, il faut bien dire qu'il y a deux choses différentes. Il y a effectivement sanctionner la publication de fausses nouvelles, a priori plutôt sur Internet, hein, et de la part de robots, bon, etc. Et puis il y a de l'autre côté la possibilité effectivement de couper le fil d'une télévision. Et là, la définition est quand même un peu différente. On ne parle plus de fausses nouvelles, on parle d'États étrangers qui participeraient à une entreprise de déstabilisation de nos institutions. Donc ça veut dire que... en filigrane, on pourrait imaginer que la couverture de manifestations en France, en montrant ça comme quelque chose de dominant, pourrait apparaître comme une déstabilisation. Donc on est dans des échelles de valeurs sur ce qu'est l'information, là, qui effectivement sont assez floues. Aurore Gorius, votre sentiment là-dessus ?
Bah, mon sentiment, c'est que des fausses nouvelles, il y en a toujours eu. Ça a toujours existé, c'est consubstantiel à l'information de masse, et il a toujours fallu faire face à ça. Et donc, de légiférer là-dessus aujourd'hui, ça n'apporte pas grand-chose, ça amène beaucoup de dangers, ça amène notamment la question aussi d'avoir des recours très rapides en référé. En 48 heures, apporter les éléments de choses qu'on a publiées, ça pose la question, par exemple, des informations qu'on sort avec des off, par exemple. Quand on fait une enquête de témoignages off sur des harcèlements, du harcèlement moral ou des choses comme ça. Enfin, pour produire des preuves en 48 heures sur la véracité d'une information, c'est extrêmement compliqué.
Mais justement, pour que les choses soient claires aussi, est-ce qu'autour de cette table, vous êtes capable de citer des informations que vous avez publiées et qui aujourd'hui tomberaient sous le coup d'une possible loi sur les fausses nouvelles ?
En parlant, là, je repensais à, par exemple à l'enquête de Libération sur le harcèlement sexuel au sein de l'UNEF. C'était un papier uniquement avec du off, des témoignages de femmes. Alors après, il faut s'assurer que ces femmes-là...
On pourra vous dire que les témoignages sont de nature à rendre vraisemblable l'information.
Oui, c'est toute la question de cette définition. Il faut voir comment après elle est appliquée, la jurisprudence, etc. Mais est-ce que ça rend vraisemblable ou est-ce que ça permet... Et il faut pouvoir, en 48 heures, s'assurer que ces femmes-là sont prêtes aussi à peut-être apporter une parole... Donc la rapidité de la procédure pose aussi problème.
Alors, c'est étonnant parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore cité, mais qui est qu'il existe déjà dans la loi de 81 une disposition que je vous lis. La publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses sera punie d'une amende de 45 000 euros.
On rappelle que François Fillon l'a utilisé dans la dernière campagne électorale, puisque c'est avec cet argument-là qu'il a attaqué le canard enchaîné sur les révélations concernant... son train de vie et son épouse.
Mais l'idée de la loi, c'est justement de sortir domaine pur de la presse pour aller sur le domaine des réseaux sociaux et d'Internet, ou de la télévision étrangère, c'est ce qu'on comprend.
On pourrait faire un parallèle avec les questions du racisme, de l'antisémitisme qu'on trouve sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ça fait quand même des années qu'on se penche sur savoir comment on pourrait endiguer ça. Moi, je note d'ailleurs qu'il y a énormément de dérapages racistes ou antisémites sur les réseaux sociaux où les gens sont pas anonymes et qui pourraient être poursuivis, qui ne le sont pas. On poursuit plus facilement les gens pour excès de vitesse que pour propos racistes sur Twitter, mais on pourrait tout à fait faire quelque chose, mais en tout cas, on n'arrivera pas à éradiquer le racisme, l'antisémitisme d'Internet, que toujours ils trouveront des nouveaux sites à l'étranger qui nous échapperont. Et ce sera la même chose pour les fausses nouvelles. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une loi qui permettra de couper des sites en Chine, en Russie, et de faire qu'ils ne soient plus accessibles en France.
Et puis il y a une autre question, et puis on conclura là-dessus, mais c'est...
Donc est-ce que au mieux, la loi, elle sera totalement inefficace. Au pire, elle va se retourner contre les journalistes.
Mais justement, je voulais prolonger ça. Est-ce que en sanctionnant les fausses nouvelles, c'est-à-dire en les censurant, on risque pas d'aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'auprès d'une partie de la population, on aura le sentiment qu'il y a un complot d'État pour taire des nouvelles qui dérangent le pouvoir et qui donc sont vraies.
Bien sûr.
Édouard Perrin.
Mais c'est le propre d'une... Moi, je pense que c'est vraiment le problème fondamental de cette proposition, c'est-à-dire que... Vous faites une ligne Maginot et vous dites, voilà, moi demain, je veux pouvoir couper Russia Today ou un quelconque organe pseudo quasi-gouvernemental.
Vous en faites un martyr,
sans même réfléchir deux secondes à est-ce qu'on peut couper les tuyaux aujourd'hui ? Non. Et vous validez, c'est comme le juge des référés qui ne pourra pas dire si c'est vrai ou pas en 48 heures, là vous validez de fait un contenu en disant « Ah ben si je l'ai coupé, c'est qu'il y a quelque chose ». Donc vous avez quelque chose à cacher, donc forcément, et pour reprendre ce que disait Raphaël plus tôt, il suffit d'aller traîner dans des collèges ou des lycées pour voir à quel point les théories du complot les plus farfelues sont considérées comme de vraies informations, pour savoir que il y a toute une frange de la population, et elle n'est pas négligeable, qui, quand quand un gouvernement coupera un signal, va dire « Ah oui, c'est forcément que c'était vrai ».
Ou le retrouver sur un site.
Ben voilà et utiliseront n'importe quel moyen pour retrouver ce qui est censé être une information.
Ouais. Bien, alors on va en rester là pour ce qui concerne les fausses nouvelles, mais on n'en a pas fini pour autant, et dans quelques instants, on va parler cette fois des procès, on a commencé à l'esquisser, mais on va aller plus en profondeur, des procès en diffamation qui sont apparemment de plus en plus nombreux. Cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the picture's why I'm calling. Just when I'm calling you.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Quand George Benson rencontre Gorillaz, ça donne Humility, extrait de leur dernier album qui s'appelle The Now Now. Et on reprend le cours de notre débat avec tout d'abord ces quelques mots.
Personne ne nous appelle. Ils appellent directement Delphine Ernotte. Et les menaces, oui, c'est des plaintes. Moi, je vais être mise en examen pour la troisième fois depuis le mois de septembre. Bon, après, c'est normal, entre guillemets. Quand on fait des sujets sensibles comme cela, il faut s'attendre à être poursuivi en diffamation. Puis il y a des menaces de retrait de pub qui, parfois, ne sont pas que des menaces. Oui.
Bon, alors, pas besoin de vous présenter Élise Lucet. C'était sur France 5, là. La responsable de Cash Investigation annonce sa troisième mise en examen pour diffamation en 3 mois. C'est vrai que ça fait pas mal. Et il semble en effet que même si on ne dispose pas de statistiques précises, les poursuites contre la presse, elles, se sont multipliées ces dernières années. Alors, vous qui travaillez avec Élise Lucet, justement, je reprends la balle au bon, Édouard Perrin, c'est aussi votre sentiment? Vous êtes effectivement de plus en plus attaqué?
Je ne sais pas si c'est de plus en plus, statistiquement, mais pour le coup...
Alors, elle évoque aussi des procédures a priori pour tenter d'interdire une diffusion.
Alors, il y a ce type de procédure-là, ce qu'on pourrait appeler du précontentieux, c'est-à-dire des coups de téléphone. On n'est pas dans la procédure, mais quand même, ça nécessite que vous vous retourniez vers votre service juridique, en l'occurrence le service juridique de France Télévisions, le propre service juridique de première ligne qui produit Cash Investigation, que ces gens-là se voient, qu'on établisse en quelque sorte une matrice de risque en se disant, bon alors, qu'est-ce qui est en jeu et comment on peut faire. Tout ça prend du temps, de l'énergie, pas simplement de l'argent, hein, ça prend du temps. Mmh. Cash Investigation, on n'est pas une équipe de 250 personnes, on est beaucoup moins que ça. Et donc rien que ça est un problème. Statistiquement, encore une fois, j'ai pas les éléments pour vous dire.
Mais
c'est plus.
C'est votre ressenti.
Mais c'est le ressenti. Ouais.
Raphaël Ruffier, avez-vous de plus en plus de poursuites? Vous avez réalisé donc récemment un dossier sur l'investigation et les menaces qui planent sur le journalisme ou qui planeraient sur le journalisme d'investigation. Et vous avez publié justement l'intégralité du coût des procédures dont vous avez fait l'objet.
Exactement. Bah, on vient d'entendre pour Élise Lucet, les pressions sur les publicités, les pressions sur l'actionnaire de référence ou les pressions judiciaires peuvent avoir un impact sur Élise Lucet, qu'est-ce que ça donne en presse locale? Vous avez compris tout de suite que l'économie de la presse locale est quand même beaucoup plus difficile.
Et vous en avez eu pas mal des procès.
Nous, alors on est dans l'enquête, donc on a régulièrement des procès. C'est vrai qu'on en a de plus en plus et qu'on fait le constat qu'un certain nombre d'acteurs ont tout à fait compris que la justice, même si le droit est plutôt en faveur des journalistes, la justice ne l'était pas. Et que le fait de faire un procès à un journaliste, c'était la meilleure manière d'éteindre une histoire. Alors, c'est pas le cas des politiques ou des grandes affaires, ceux qui ont peur d'être vraiment exposés, mais tout un tas d'autres acteurs, tout simplement, quand ils font un procès, ils s'assurent qu'il n'y ait pas de reprise.
Pensez à qui? Il y a des industriels?
Oui, essentiellement des industriels, des universitaires, des institutions locales qui ne sont pas forcément... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une expression d'Edu Plenel que j'aime bien, il dit que le problème de la France, c'est que c'est une démocratie de basse intensité. Au niveau local, c'est terrifiant, c'est qu'il n'y a pas de jus. Quand on sort des infos, il y a très peu de reprises, tout simplement parce qu'on est peu d'acteurs. Et dès lors qu'il y a une menace de procès, eh ben, il y a beaucoup d'infos qui ne sont simplement pas reprises. Et du coup, le journaliste qui l'a sorti, se retrouve à se défendre seul sur cette affaire-là et prendre des années à obtenir gain de cause, mais perdre beaucoup d'argent.
Alors, à contrario, il y a des situations dans lesquelles les juges sont plutôt favorables aux journalistes et comprennent même que des procédures bâillons, ça existe. C'est le cas notamment d'une des procédures à laquelle vous étiez confronté, Yvan Duroy, pour Bastamag, puisque vous avez gagné, vous, contre Bolloré.
Oui, on a gagné. Donc, on a subi un procès en diffamation suite à un article publié en 2012.
Peut-être rappeler les faits.
Rapidement, c'était un article qui faisait état sur la question de l'accaparement des terres, donc l'acquisition de terres à grande échelle en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et qui s'intéressait aux entreprises françaises qui étaient impliquées dans ces accaparements de terres-là, et notamment l'entreprise Bolloré, qui n'était pas la seule citée. Et là-dessus, Bolloré, le groupe Bolloré, nous a intenté un procès en diffamation sur une dizaine de paragraphes de l'article, puisqu'on citait plusieurs sources et notamment des rapports d'ONG. Et donc on a gagné en première instance, Bolloré a fait appel, on a gagné en appel et Bolloré s'est pourvu en cassation. Et là, en mai, donc très récemment, on a gagné en cassation, donc 6 ans après la publication de l'article. Ça veut dire que pendant 6 ans, on a été mobilisé sur cette plainte à dépenser des frais d'avocat, d'huissier, de témoins, etc. Et voilà, donc au bout de 6 ans, cette plainte est close. Reste qu'on a une deuxième plainte du groupe Bolloré, toujours sur le même sujet, sur un autre article. Le procès, la première instance devrait se tenir en octobre.
Mais ça veut quand même dire qu'à un moment donné, les juges considèrent que la plainte n'est pas justifiée.
Oui, alors là, on
même si la justice est extrêmement lente et qu'effectivement c'est un souci.
Tout à fait, on a la chance d'avoir un droit de la diffamation.
On l'a vu à France 2 aussi également, où France 2 a gagné un procès contre Bolloré de la même manière.
On a la chance d'avoir un droit de la diffamation assez carré en France et des juges spécialisés dans le droit de la presse. Après, pour la question des poursuites Bayon, le but du plaignant, en général une grosse entreprise, le but n'est pas de gagner en justice, c'est de multiplier les poursuites pour dissuader
toute nouvelle information sur le sujet.
Tout journaliste ou toute ONG, parce que nous on s'est amusé du coup, les différents journalistes ou médias poursuivis par Bolloré depuis quelques années, dont Radio France il y a quelques années, à lister l'ensemble des poursuites. On en a noté une vingtaine en une petite dizaine d'années, donc de Bolloré contre des médias, ce qui concerne en tout une quarantaine ou une cinquantaine de journalistes et d'avocats. Quand l'avocat de Bolloré parlait à l'audience en appel de poursuite homéopathique, on voit que c'est une petite...
homéopathique qui se transforme parfois en remède de cheval.
Et tout ça pour dire juste que on parlait tout à l'heure des est-ce que ce nombre de poursuites augmente ou pas. Il y en a quand même plusieurs en cours. Il y a eu l'histoire de pas seulement contre des médias, mais contre des associations aussi. Donc il y a eu l'histoire d'Apple contre Attac, il y a eu l'histoire d'Areva contre un blogueur anti-nucléaire sur Mediapart, Veolia qui s'attaque à France Liberté et des associations qui travaillent sur la question de l'eau.
Ce que vous voulez dire. La procédure devient une arme qui permet d'éteindre l'information ou qui vise à éteindre l'information. Ça, c'est quand même relativement nouveau. Il fut un temps où la diffamation, c'était effectivement je vous attaque parce que je considère que vous avez attenté à mon honneur. Là, on est en train de basculer vers autre chose. C'est ce qu'on sent depuis quelques années. J'aimerais qu'on termine sur un autre aspect, mais qui menace aussi la profession et donc peut-être un peu l'investigation aussi. Aurore Gorius, il y a une petite musique, alors je ne parle pas de Trump, c'est grossier aux États-Unis sur la presse, ils se sont tous des menteurs, on l'a fait honnir par le public. Bon. Mais ici, par exemple, à Radio France, on a publié une enquête, on a diffusé une enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, et on a vu derrière une diatribe qui appelait à la haine des médias, considérant qu'effectivement les médias sont disqualifiés parce que soit ils sont à la solde du grand capital, pour faire simple, soit le service public est à la solde du pouvoir et donc personne n'est libre et indépendant. Est-ce que cette petite musique-là n'est pas aussi dommageable et ne fait pas aussi partie de ces attaques qui affaiblissent ou sapent effectivement les fondements de l'information ?
Si, cette petite musique, elle vient aussi en grande partie du personnel politique. On a vu que c'était une petite musique qui était très très présente pendant la campagne, tout bord confondu.
Jean-Luc Mélenchon fait partie du personnel politique.
Oui, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon en fait partie. Ça a été manié aussi dans la campagne de François Fillon. Ça a été manié par le Front National, Marine Le Pen. Donc, on se rend compte qu'il y a une entreprise de sape d'un des piliers de la démocratie, qui est la presse, par le pouvoir politique, et qui trouve écho dans l'opinion publique. C'est-à-dire que
ça rejoint ce qu'on disait sur les théories du complot aussi.
Oui, oui. Et du coup, c'est vrai que on a l'impression que aujourd'hui, les médias sont disqualifiés dans beaucoup de sphères, dans la sphère politique, dans la sphère économique très attaquée. Et ça fonctionne plutôt pas mal dans des périodes où les arguments populistes rencontrent pas mal d'écho dans l'opinion. En général, ça peut être assez payant. Ça l'a pas forcément été pour François Fillon, ni forcément totalement pour Jean-Luc Mélenchon. Mais on voit bien aussi que, par exemple, dans le camp Jean-Luc Mélenchon, il y a une critique permanente des médias, avec l'idée de créer dans son parti, ou en tout cas de son côté, son propre média, qui est un média plus partisan. Donc tout ça, évidemment, ça fait partie des attaques récurrentes à l'égard de la presse en ce moment, qui fragilise la crédibilité de la presse, alors que ce qu'on peut quand même dire, par rapport à toutes ces procédures, c'est qu'il y a quand même un autocontrôle très fort et assez important des médias eux-mêmes et des journalistes, parce que la crédibilité, ça fait quand même partie de l'image d'un média, et que c'est très important pour l'image d'un média d'être crédible. Donc il y a quand même un autocontrôle très fort.
Raphaël Ruffier.
Ça fait partie des choses que j'ai aussi entendu régulièrement dans des lycées ou des collèges. C'est-à-dire que c'est pas que les politiques qui disent il n'y a aucun média indépendant en France, le service public est vendu au pouvoir, tous les autres journalistes sont vendus à des acteurs privés. J'ai entendu des enseignants le dire dans des classes. Et puis après, nous appeler en disant « Ah, nos élèves, c'est au secours, ils n'arrivent pas à faire la différence entre des vraies nouvelles et des fausses nouvelles, et à faire la part des choses. » Quand on parle d'éducation aux médias, encore une fois, c'est à mon sens l'évidente solution. C'est-à-dire que pour se défendre des fausses nouvelles, il faut des citoyens bien informés, capables de faire la part des choses.
Donc on est dans un monde qui change et on doit accompagner cette transformation. Et il y a du boulot, si je vous entends bien. Bien, merci à tous d'avoir participé à cette discussion, plus qu'un débat d'ailleurs, parce que je crois que les points de vue étaient se retrouvaient assez. J'espère qu'elle vous aura en tout cas éclairé. Et puis notez qu'à partir de la semaine prochaine, on ne se retrouvera plus le samedi à 13h20, matin, mais bien, notez-le, le dimanche à 13h15, et ça sera le cas pendant tout l'été. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Théo Lacombrade qui était à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait lui notre programmation musicale. Dans quelques instants, dans CO2 Mon Amour, Denis Chessou va vous parler d'un projet de jardin flottant à Rennes sur la Vilaine. Quant à moi, eh bien, au nom de la cellule Investigation de Radio France, je vous souhaite un excellent week-end.